Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes. On m'entend bien? Bon, c'est bien. Puis on n'a pas le grésillement, l'écho non plus. Alors, on va demander à l'Esprit Saint de diriger cet entretien, cette petite causerie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même Esprit et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché.
Priez pour nous.
Voilà, alors est-ce qu'il est nécessaire que je rappelle, je vois mes visages, est-ce que, oui. Alors la garde d'honneur, déjà c'est une grâce d'en faire partie. On va dire que c'est, comment dirais-je, une école de sainteté. Indolore, si j'ose. Alors je m'explique, c'est-à-dire que le Seigneur demande à une sœur de la Visitation en 1862 de lui offrir une heure de sa journée, toujours la même heure, et au cours de cette heure, elle offre tout ce qu'elle fait. Donc si elle est au téléphone, même si elle regarde la télé, à moins de regarder quelque chose de mauvais, mais tout ce qu'elle fait. Donc elle va... On la démarre en disant une petite prière d'offrande, en se branchant, ou pour reprendre les termes, en se connectant au Saint-Sacrement présent au tabernacle. Et dans cette présence qu'on rend présente en pensée, eh bien on lui offrir tout ce qu'on fait. Donc joie et peine, et le Seigneur est consolé de notre ingratitude, de notre péché en premier. Et puis après, c'est avant tout une démarche réparatrice pour le péché de nos frères et nos sœurs en humanité. Et à travers cette demande à notre Seigneur, donc là il réitérait sa demande à la Visitation de consoler son cœur, mais il l'ouvre bien plus qu'à la Visitation, en somme il l'ouvre à vous. On n'est pas encore assez nombreux pour consoler son cœur. Mais alors pourquoi je dis que c'est une sanctification indolore? Parce que le fait de rester, c'est en somme l'union à Jésus qui nous change, qui nous transforme. Quand on est en union avec lui, même si on est occupé à faire sa cuisine ou à écouter quelqu'un, eh bien, comme dit Saint-Louis Marie de Montfort, on fait une œillade, c'est-à-dire qu'on regarde en esprit Jésus. Et à ce moment-là, on s'ouvre à la grâce sainte, notre cœur est ouvert et l'Esprit Saint peut s'engouffrer et nous changer. Donc tous les jours, cette heure, oui.
Je pensais à quelque chose. Est-ce que nos actions qu'on fait pendant cette heure, en union avec Jésus,
ouais.
En fait, c'est lui qui nous divinise.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Tout ce qu'on fait pendant cette
voilà,
heure.
Voilà, tout ce qu'on fait prend une valeur de rédemption. Autant, et c'est ça le rôle démonial, hein, de suppléer à tous ces actes qui seront faits sans penser à Jésus et qui tombent en somme à côté du cœur du Christ. Toutes les souffrances non offertes servent à rien et elles sont perdues. Et nous, dans l'office divin, eh bien, en somme, c'est un peu un raccourci dans ma façon familière de l'exprimer. En somme, on les récupère, si vous voulez, on les offre au nom de tous ceux qui ne les offrent pas. Mais donc tout ce qu'on fait, si on veut qu'elles aient une valeur de rédemption salvatrice pour nos frères, déjà pour nous et pour nos frères, eh bien il faut qu'elles soient faites en union avec Jésus présent au tabernacle. Et c'est ça la garde d'honneur, c'est pas autre chose. Hein. Et mystérieusement, jour après jour, eh bien on est visité par sa vie divine, donc la vie de l'esprit, et il nous change. Alors évidemment, c'est selon notre ouverture et notre attention, eh bien, chez les uns et les autres, ça va plus vite ou moins vite. Bon, ça, c'est dit notre saint fondateur, ça sert à rien de regarder. Il faut s'arrêter une fois l'an, paraît-il, hein, pour démonter la pendule et puis regarder tous les rouages et puis huiler, redresser ce qui a été faussé au cours de l'année. Donc c'est, nous on fait ça avec, mais je vous invite à le faire, hein, c'est 10 jours de retraite par an où on s'arrête vraiment, parce qu'on a toujours des petites retraites, quelques jours de retraite ici ou là qui précèdent les solennités. Et comme on l'a vu la dernière fois, pour bien rentrer dans le mystère de la solennité. Mais là, c'est 10 jours de retraite où on regarde ce qu'a été notre vie et on se questionne sur nos vœux. Est-ce qu'on y a répondu, quoi ? Et c'est pas, je pense pas que ce soit réservé simplement à des religieuses. Et ça peut être l'occasion, justement, au cours de l'année, de prendre un temps de retraite et dire, ben voilà, où j'en suis dans mon engagement de garde d'honneur. Est-ce que c'est juste, je m'occupe pendant cette heure. Non, ça va bien plus loin que s'occuper avec Jésus pendant une heure. C'est lui donner les moyens. Et souvent, on pense que c'est nous qui avons envie, et heureusement, il le dépose en nous, d'avoir envie de faire partie de la garde d'honneur et puis d'être saint. Mais avant que ça vienne de nous, c'est d'abord déposé par Jésus dans notre cœur. Et la sainteté, le désir de la sainteté vient de lui. Et c'est pour ça que quand il mendie ce temps, cette heure de présence à son cœur, pour pouvoir rentrer en nous, hein, et nous travailler, nous transformer, et il a plus intérêt à nous voir saints que nous à l'être. Hein, parce que c'est les vrais réformateurs de l'Église, j'insiste, du monde, mais de l'Église, sont les saints, et pas les plans pastoraux et tout ce que vous voulez. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas par là que ça passera. C'est la sainteté dont le monde a besoin. Oui.
Et la plus petite chose qu'on puisse faire dans cette heure, ça l'intéresse ?
Oui, ça l'intéresse. Oui. Mystérieusement, ça l'intéresse.
Ça l'intéresse, en fait, je suis un peu étonnée.
Parce que c'est l'amour avec lequel vous ferez la chose qui l'intéresse. C'est pas la chose en tant que telle, mais c'est l'amour avec lequel vous ferez la chose.
Mais notre amour est si petit pour le rejoindre. C'est lui qui vient à notre aide, parce que nous, on ne peut pas.
Non, c'est justement pour ça qu'on a le cœur de Jésus. En somme, de nous, on n'est rien, et on peut rien, et on vaut rien. On n'est que misère. On n'en est même pas tout à fait persuadé. On se croit quand même quelque chose. Mais en somme, l'amour avec lequel vous ferez la petite chose, même insignifiante, elle vient de Jésus. Normalement, on puise dans le cœur de Jésus pour faire la petite chose. C'est d'où la pensée, en somme, de dire, ah ben, Jésus. Alors, quand on dit cœur de Jésus, c'est l'Eucharistie, hein. Dans l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus, c'est la vie divine, c'est la vie trinitaire, l'Eucharistie. Et le cœur de Jésus, c'est ça. Et donc le fait d'y penser, eh bien, vous puisez dans le cœur. Sainte Marguerite Marie demandait beaucoup à ses novices d'aller puiser dans le cœur, dans son cœur, l'amour pour faire les choses. Et même, elle parlait des abîmes. Donc un jour, on en parlera peut-être. L'abîme d'humilité, par exemple, quand vous avez eu un mouvement d'orgueil, d'aller en esprit vous abîmer dans le cœur de Jésus pour abîmer votre orgueil dans l'humilité du Christ. Et du coup, en ressortir plus humble. Et souvent, ce qu'on fait, nous, quand on a eu un mouvement d'orgueil, eh bien, on s'auto-justifie de son mouvement d'orgueil. Bah, j'avais raison de lui dire ça, ou j'ai bien fait de parler, ou voilà, parce que on est un peu mal à l'aise quand même. Et alors que non, normalement, on doit aller au cœur de Jésus. On doit toujours, hein, c'est ça la vie trinitaire, hein, même le Christ, l'amour qu'il reçoit du Père, c'est le Saint-Esprit, mais il le garde absolument pas pour lui, parce qu'il est parfait. Eh bien, il renvoie tout à son Père, et c'est ça qui vaut la circulation, cette vie divine. Et nous, on est amenés à vivre la même chose. Alors, comme on est des blessés, on s'en garde un petit peu, quoi. Voilà pour le rappel. Alors, si on oublie son heure, c'est pas un péché. On supplée au moment où on s'en rappelle. Et puis après, on peut aussi solliciter ses anges gardiens, son ange gardien. Comme je vous dis, il a plus intérêt que vous y pensiez que nous. Donc l'ange gardien, il nous est donné pour nous aussi nous le rappeler. Hein. On leur confie beaucoup de choses matérielles à nos anges gardiens, mais pas uniquement. Ils sont là aussi pour la vie spirituelle et en somme pour faire monter nos prières et pour nous rappeler la présence de Jésus, quoi. Hein. Donc on les voit pas. À moins que que vous ayez la grâce de le voir, mais on se dit, ils sont autour du Saint-Sacrement. Hein, et le Seigneur en a donné un à chacun pour le conduire sur le bon chemin. Et ça, il faut avoir une grande intercession, enfin, pas avoir peur de les solliciter, même justement pour rappeler mon heure de présence. Oh, j'ai peur d'oublier. Alors, C'est sûr hein, que la technique, elle est au service de l'homme, c'est bien. Donc, on met à sonner son téléphone pour se rappeler son heure. Moi, je suis ça très bien. Mais on peut aussi demander à son ange gardien. Alors, ça demande de poser un acte de foi. On dit, oh là là, est-ce qu'il va y penser? Est-ce que ça va marcher? Alors, sachez que l'ange gardien va y penser. Par contre, c'est nous où là, on se dit, est-ce que moi, enfin, est-ce que je vais, est-ce que j'ai assez de foi pour faire confiance à un esprit, un pur esprit que je vois pas? Et dans la foi, je me dis, bah, oh, d'accord, le Seigneur me dit qu'il m'en a donné un, mais voilà. Eh bien, ça demande, là encore, hein, comme on avait vu, de marcher sur l'eau. Et, donc, mais c'est des petits exercices, amusez-vous à le faire. Voilà, une fois de temps en temps, pas uniquement pour l'heure de garde, mais des fois pour des petites choses, des rendez-vous qu'on voudrait avoir, rencontrer telle personne, préparer tel cœur pour rencontrer la personne, envoyer votre ange, et puis, ah, ça marche, en fait compte. Et petit à petit, on grandit dans cette confiance qu'il existe et qu'il est bien à notre service pour grandir dans la sainteté. Et là, on rentre dans le monde surnaturel. Et c'est bon. Alors aujourd'hui, est-ce que j'ai répondu? C'est bon? Vous avez bien...
Ouais. Juste une toute petite dernière chose. Ouais. C'est vrai que je dis que la première fois que je viens. Ouais. Mais si dans cette heure, ben, voilà, on commence un petit peu, il y a quelque chose qui nous agace.
Oui, oui. Ça arrive souvent.
C'est quelque chose d'un peu terrible, quoi, de se dire que ben, je me suis énervée pendant cette heure.
Ouais. Alors deux choses, hein, ça vous ramène à l'humilité, où vous ne voyez rien du tout. Bon, c'est bien, merci Seigneur, je le savais, mais on a toujours besoin de le savoir un peu plus. Donc c'est toujours des occasions de prendre conscience que ben, c'est pas si facile que ça. Moi je me rappelle une personne qui m'avait dit « Oh, moi je n'ai pas besoin de rentrer à la garde d'honneur, je suis toujours en présence de Jésus, je pense tout le temps à lui. » Oh, ben, j'ai dit, ben, vous avez bien de la chance. Et puis, bon, elle réfléchit, puis mine de rien, elle se rend compte quand même qu'il y a une heure où c'est pas tout à fait ça, quoi. Et donc c'est sûr que on pense souvent à Jésus, mais de façon continue, le plus qu'on peut, peut-être pas. Et puis alors quand on fait des petits ratés, donc ça nous ramène à ce qu'on est réellement, donc des pauvres. Et puis comment dirais-je, ça vient pas de. Enfin, c'est le père Guibert qui en parle dans ses livres. Et nous, à la visitation, on est très touchés par ces démarches, c'est offrir les ratés. Voilà. Parce qu'avec notre chère Léonie, la Thérèse Françoise, Martin, on peut dire qu'elle n'avait que ça à offrir, les ratés. Donc, ça veut dire tout ce qu'on n'aime pas de soi et tout ce qu'on fait qui est raté. Voilà. Donc, justement, vous êtes à votre heure de garde, donc bien attentif. En plus, cette fois-ci, je n'ai pas raté mon heure, j'étais bien à l'heure. Et là, j'envoie balader quelqu'un au téléphone qui m'énerve. Eh bien oui, mince Jésus, j'ai fait ça. Et alors voilà, et ça c'est le grand mystère de l'amour. Le fait de dire à Jésus, ben voilà, Jésus, ben, j'ai ça à t'offrir pendant mon heure. J'ai envoyé balader la personne au téléphone, j'ai été trop manqué de cordialité, etc. Eh bien je pose en acte de foi, je crois que voilà, il est le seul à tirer d'un mal un plus grand bien. Donc il est le seul à pouvoir transformer, alors recycler, hein, si j'ose, nos ordures, en un plus grand bien. Pourquoi? Parce que ça va vous maintenir dans l'humilité, quoi. Et puis lui, de son côté, ça ne lui pose aucun problème, quoi. Il a su transformer toutes les horreurs qu'on a pu lui faire subir, même regarder toutes les profanations eucharistiques, combien ne se font pas prendre à travers même ces grands péchés, par exemple de l'avortement, où c'est l'occasion pour Jésus de se manifester à leur cœur. Et puis il y a des conversions vertigineuses, hein, et c'est des fois à travers des péchés, des trucs affreux. Et ben nous c'est pareil. Donc à travers un mal qui est fait au cours de qu'on aurait voulu avec lequel on n'est pas très à l'aise et glorieux à lui offrir, le Seigneur il est mendiant. C'est pas tant ce que vous avez fait que l'amour, parce qu'il en faut de l'amour pour dire à Jésus, ben voilà, j'ai raté le coup de téléphone pendant mon heure de garde, et puis il faut beaucoup d'amour pour lui offrir. Parce qu'on préfère le garder et puis en faire du venin. Ça veut dire le tourner en mayonnaise dans notre tête. Et puis se taper dessus, dire qu'on est nul, et qu'on vaut rien, qu'on est un mauvais garde-honneur, etc. Et là, en somme, on fait le jeu du diable. On n'est plus dans cette démarche de parler avec Jésus, mais on est en parler avec soi, et je l'ai déjà dit dans le combat spirituel, parler avec soi, c'est parler avec le diable. On est sorti, en somme, du plan de Dieu sur nous, hein, qui était du coup d'offrir à Jésus ce qu'on fait.
Comme voilà. Il s'est offert sur la croix.
Voilà, exactement, tout à fait. Voilà.
Et juste une dernière petite chose, c'est quand j'ai reçu mon inscription de ma garde d'honneur, l'enveloppe était toute déchirée, j'ai jamais vu ça. Mmh. Je
pense ah oui, ça arrive.
Je n'étais pas très contente en fait.
Non, c'est bon signe.
C'est très bon signe.
Oui, oui, tout à fait. Alors voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Pensez, parce qu'on s'approche, et heureusement, du week-end de la garde d'honneur fin mars. Donc là, vous trouvez quelques affiches. J'ai mis un peu de temps, il faut reconnaître, à les préparer. Je ne suis pas en avance. Et du coup, je voulais vous présenter ce que c'est. On aura la grâce et la joie d'accueillir l'abbé Lucchesi, qui est l'ancien directeur général de la garde d'honneur. Et il est aussi, comment dirais-je, aumônier et directeur de la garde d'honneur chez les sœurs des filles du cœur de Jésus. Et la fondatrice s'appelle la Mère Marie de Jésus de Louis Martini, qui est la première zélatrice, hein, qui a beaucoup œuvré et beaucoup aidé Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui est la fondatrice, elle, de la garde d'honneur, à diffuser et à enrôler tous les évêques à l'époque. Elle a beaucoup fait. Elle voulait devenir visitandine, hein, parce que c'est sûr que le charisme de la visitation lui plaisait beaucoup, la réparation. Et ben non, le Seigneur avait un autre plan sur elle et il lui a demandé de fonder. Alors je vous la présenter parce que c'est une belle figure, hein, puis elle est liée à la visitation. Et puis ce qui est très beau, c'est que elle vient comme compléter, on va dire, la spiritualité par le biais de son ordre. Elle complète la spiritualité de la garde d'honneur, hein, parce que leur vocation à ces filles du cœur de Jésus, comme elles s'appellent, en somme, c'est d'être garde d'honneur, hein. Donc, elle va apporter un bel éclairage. Et puis, donc aujourd'hui, je souhaitais commencer avec vous. Alors, c'est très beau. Dans la prière, je me dis non, ça vaut la peine de vous lire tout. Parce que c'est très d'actuel. Enfin, elle, c'était une femme très, très puissante, hein, c'est-à-dire qu'énormément de cordes à son arc. Et elle avait, pour le premier jubilé de son institut, donc le 8 décembre 1882, elle va écrire une lettre magnifique, un peu longue, mais vous allez, donc c'est là-dessus que je me disais, est-ce que c'est nécessaire de tout lire ? Je vais quand même la lire en entier. Et elle donne, hein, elle redonne tout ce que son époque vit à ce moment-là, et mystérieusement, eh bien, c'est exactement ce qu'on vit. Donc, voilà, on se dit, oh là là, sauf, bon, voilà, on s'accentue, bien sûr, dans la dégringolade, mais par contre, et c'est pour ça que je veux vous la lire, c'est qu'elle donne à ses filles, et on peut très bien, il ne s'agit pas d'avoir un voile sur la tête pour le vivre, il suffit juste d'être garde d'honneur ou simplement un amoureux de Jésus, eh bien, elle donne les moyens, on va dire, de se battre, de prendre les armes, si j'ose, face à ce monde qui crache au visage de Jésus en disant « on ne veut pas de toi », et où on fonde notre société sans les commandements et surtout sans Dieu. Et donc elle donne des moyens, donc elle nous invite à rentrer dans cette lutte spirituelle, parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il faut se battre, on ne va pas se laisser écraser. Mais il y a plusieurs moyens de se battre et il y a plusieurs moyens de prendre les armes. Et Jésus a pris l'arme, hein, de la croix pour tuer la mort, mais il l'a pas fait comme Saint-Pierre, il n'a pas sorti son épée pour trancher l'oreille, hein, du soldat. Donc, enfin, il avait raté, mais pour en arriver à l'oreille du soldat. Donc voilà. Alors, on est en 1882. Hein. Mes bien chères filles en notre Seigneur, le voici donc arrivé, ce cher anniversaire, ce premier jubilé de la fondation de notre petit institut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes de bonne volonté. Gloire au divin cœur de Jésus, dont nous avons le bonheur d'être les plus humbles filles. Vos cœurs débordent de joie et de reconnaissance. Que pourrais-je ajouter à vos sentiments et à vos pieuses émotions ? Laissez-moi du moins vous jeter ce cri qui s'échappe du fond de mon âme, amour, amour. Amour au Dieu qui a tant aimé le monde que pour le sauver il a livré son Fils unique. Amour à l'agneau qui nous a lavés dans son sang adorable et qui s'est immolé pour nous racheter. Amour à Jésus hostie qui depuis 10 ans n'a pas dédaigné de demeurer exposé sur les modestes autels de nos monastères. amour au cœur divin qui nous a conquises, qui a ravi tous nos cœurs. Mes sœurs et mes filles, je voudrais vous donner la passion, la céleste passion de Jésus-Christ. C'est ça qu'il a demandé, hein. Il est venu apporter le feu de l'amour sur la terre, et que dirais-je, désirerais-je sinon qu'il embrasse vos âmes? Je voudrais vous voir dévorer de cet amour. Un peu comme Sainte Marguerite Marie, hein. Moi je dis, on est des handicapés. Quand on voit ces saints, on dit comme la mère, là vous allez voir, elle ose, hein, ceux qui viennent à leur sainte, les méditations sont sur elle, et bien voilà, pas peur de crier qu'il règne dans nos cœurs. Et donc ces saints qui sont brûlés par l'amour du cœur de Jésus, ils sont capables de folie. Et moi je me dis, on est des handicapés, on n'est pas capable de ces folies. Non point d'un amour de désir et de sentiments inféconds, voilà, ça sert à rien, mais d'un amour en œuvre et vérité, qui va jusqu'aux dernières extrémités du dévouement et qui se laisse porter par le bien-aimé jusqu'aux dernières extrémités de l'immolation. Voilà. Pour apporter quelques flammes de plus à cet amour, je veux vous rappeler, au besoin vous apprendre, combien en nos temps malheureux est haï celui que nous aimons, combien est méprisé celui que nous adorons, combien est outragé celui que nous servons à genoux. Ô mes sœurs, l'amour n'est pas connu, l'amour n'est pas aimé. Quand j'ai vu la haine du monde pour le Dieu qui est amour, les mépris et les outrages du monde pour celui à qui toute puissance appartient au ciel et sur la terre, quand j'ai vu l'armée de Satan dévaster le champ des âmes, pour lesquelles mon maître a versé son sang, mon cœur s'est fondu comme la cire au-dedans de moi-même, et comme l'amour désire faire plus qu'il ne peut, et qu'il croit que tout lui est possible et permis, j'ai osé demander au divin amour de se former une petite légion de vierges, donc c'est ses sœurs, qui soient des séraphins de la terre, d'âmes prêtes à la souffrance, ardentes au dévouement, que l'obéissance seule, guidée par la prudence qui appartient à l'autorité, puisse s'arrêter dans la voie du sacrifice. D'âme livrée et abandonnée à son action divine en qui ses desseins de miséricorde se réalisent pleinement. D'âme eucharistique, réparatrice et apostolique, d'âme hostie, unie à lui, transformée en lui, offerte et sacrifiée par lui, avec lui, pour lui, consommée en lui, qui ne vivent plus mais dans lesquelles ils vivent et dont la vie soit cachée avec lui en Dieu. Des hosties vivantes dans lesquelles il achève en quelque sorte sa passion, et dont il dispose selon son bon plaisir, dans l'intérêt de sa gloire. Mes sœurs, est-ce un rêve? À vous de répondre, à vous par l'élan et la générosité de vos cœurs, de prouver à Jésus qu'il ne vous a pas appelé en vain dans son sanctuaire et autour de son autel. Donc, au fond de vos paisibles solitudes, donc on peut tous se dire ça, hein, à peine si un écho lointain des blasphèmes du monde arrive jusqu'à vous. Assurément, avant et depuis votre entrée en religion, à l'aspect extérieur de la société, aux événements accomplis sous vos yeux et grâce à l'instinct de vos âmes chrétiennes, vous avez deviné quelque chose des horreurs des temps actuels. Ému par les outrages faits à Dieu, vous avez résolu de vous consacrer tout entière à lui dans la prière et la réparation. Mais laissez-moi vous le dire, mes chères filles, vous réparez ce que vous ignorez. Le mal est plus grand que vous ne le supposez. Ça, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, il y a des nouvelles qui nous viennent, mais si on savait tout, on serait effrayés des calculs de Satan. Et par suite, plus grande et plus pressante est la nécessité, plus impérieux est le devoir qui s'impose à chacune de faire contrepoids à ce mal selon ses humbles forces. Il me semble utile de vous inviter à jeter un instant avec moi quelques regards plus attentifs du côté de l'ennemi de notre divin maître, afin que connaissant mieux ses ruses et ses projets, votre zèle s'accroisse, et que votre amour essaie de monter, s'il était possible, au niveau des outrages. Que dis-je ? Afin que lorsque le sang de Jésus-Christ offert sur l'autel crie miséricorde devant la face du Père, vos âmes associées aux divines opérations de Jésus confondent avec plus d'ardeur encore leur voix et leur pénitence avec la voix et le sacrifice de ce sang qui achète le salut du monde. Du reste, vous êtes nés précisément pour les temps où nous sommes. Eh oui, et des fois on se dit, oh, j'aurais bien aimé naître à une autre époque. Eh ben non. Du reste, votre vocation est justement la lutte spirituelle par les armes de la prière et de l'immolation contre Satan et contre la forme actuelle de ces assauts. Ce que vous devez contribuer à réparer, c'est le mal spécial qu'il fait en ce siècle. Ce que vous avez à obtenir, c'est l'exaltation de ce qu'il s'efforce d'abaisser, de renverser et de détruire. Ce pourquoi vous devez vous sacrifier, c'est ce qu'il attaque en ce moment avec une rage qui ne connaît plus de bornes. Rappelez-vous ces paroles des constitutions d'Institut, donc du sien. Cette très humble congrégation est née comme une fleur du calvaire, d'une pensée de dévouement et d'amour pour les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, pour la Sainte Église et le sacerdoce, et d'une pensée de réparation pour les outrages sans nombre faits en notre temps malheureux, à la majesté divine et à notre sainte religion. L'enfer et le monde disent actuellement tout sans Jésus-Christ. Ils veulent le chasser des cœurs, des familles et des nations. Pour nous, nous devons répondre comme l'Église et avec l'Église, tout par Jésus-Christ. Elles offrent sans cesse à la très sainte Trinité le sang précieux de Jésus-Christ pour obtenir l'exaltation de la Sainte Église, le triomphe des intérêts sacrés de Dieu dans le monde, l'extinction des sociétés secrètes. La Mère Marie de Jésus s'était offerte pour contre la franc-maçonnerie. C'est plus que jamais d'actualité. Parce que pour moi, ils ont toutes les reines de notre monde. Ils sont malheureusement dans tous les ministères. L'extinction des sociétés secrètes et la conversion de leurs membres et surtout la perfection et la sainteté toujours croissante du sacerdoce catholique, c'est plus que d'actualité. Et des ordres religieux, tous les ordres religieux sont ballottés aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui est indemne. Tous. Que ce soit les anciens ou les nouveaux, on est tous ballottés. Et les secours célestes qui leur sont nécessaires pour qu'ils triomphent de la persécution organisée contre eux par l'enfer. Tout le mérite de leurs sacrifices et de leurs prières et leur vie elle-même sont offerts à Dieu selon les fins qui viennent d'être exposées. Quand Dieu créa le monde et l'homme, il forma un plan digne de son amour et de sa sagesse. L'homme fut destiné à glorifier et à aimer Dieu sur la terre et à le posséder un jour dans la gloire du ciel. Tout le reste fut créé à cause de l'homme pour l'aider dans la poursuite de sa fin dernière qui est Dieu. Par conséquent, tout dans l'homme et dans la société humaine, actes, pensées, usages des facultés, des forces ou des créatures, devait tendre à cette fin suprême. Mais poussé par le démon, l'homme a péché, et depuis sa faute, il est tenté à une heure par cet esprit mauvais qui haït Dieu et sa créature. Son cœur corrompu est devenu complice de son ennemi, et sans cesse il est porté à s'insurger contre Dieu et à se prendre lui-même pour fin. Dieu, qui est l'infinie miséricorde, a réparé cette terrible chute par la rédemption. Tout a été restauré en Jésus-Christ. Il est né, il a souffert et il est mort pour racheter et sauver l'homme coupable. Il a fondé l'Église dont la mission surnaturelle est de distribuer aux âmes dans les sacrements les mérites infinis du Sauveur, d'enseigner la vérité au monde, de dévoiler l'erreur, de combattre le mal, de conduire les âmes au bonheur éternel et même de garder le dépôt des vérités naturelles méconnues par les passions et qui sont la base de l'ordre civil. Le mal moral est la révolte de l'homme contre l'ordre que Dieu a établi et la négation pratique de la subordination de toutes choses à leur vraie fin dernière. Assurément, depuis le péché originel, ce mal a toujours existé. L'antique ennemi du genre humain, qui est aussi et surtout l'ennemi de Dieu, a de tout temps conspiré à perdre les âmes. Mais jamais peut-être plus qu'aujourd'hui, il n'a osé guerroyer avec tant d'audace, de cynisme et de perfidie. Je crois aussi. Et malheureusement, on n'a pas, c'est pas, on va dire que le cynisme et la perfidie, je crois que c'est pas, on n'est pas arrivé à la fin. Cette lutte revêt depuis un siècle et demi un caractère spécial qui doit inspirer les réflexions les plus graves. Ce n'est plus comme autrefois. Une attaque partielle contre quelques points du dogme et de la morale catholique. Une erreur qui, après des plus funestes agitations, était comme forcée de se cantonner sur certains points, ne pouvant s'emparer selon ses souhaits d'une société dont les grandes assises n'avaient point encore été désorganisées dans leurs bases. Ou une révolte accidentelle et locale contre quelques princes. De nos jours, c'est un vaste mouvement d'ensemble contraire à tous les dogmes religieux, à tous les principes de la morale et à toutes les bases de la société religieuse et civile. Ce mal est universel. Il se répand chez tous les peuples du monde, malgré les différences de climat, de race, de gouvernement, enlaçant les intelligences dans un vaste réseau de mensonges et exprimé par des mots séduisants. C'est fou, hein? C'est impressionnant, hein? On dit, oh, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit, je suis désolée, que ce soit dans le monde religieux ou que ce soit dans le monde politique. Dans l'esprit d'un très grand nombre d'hommes, toutes les vérités sont amoindries, les plus étranges aberrations sont accréditées. Exactement ça, on dit, c'est pas possible, on marche sur la tête, maintenant personne ne le voit clair. Les plus manifestes erreurs sont acclamées. Les principes les plus subversifs sont proclamés et admis. La PMA, regardez. Bientôt, c'est l'euthanasie. En face de l'Église de Jésus-Christ se dresse presque sans voile, enhardie par les malheurs du temps, l'infernale Église de Satan. C'est comme ça que s'appelle la franc-maçonnerie. Qui, si longtemps, a tramé ses complots dans l'ombre et a couvert du plus profond secret ses erreurs abominables, ses ignobles mystères et ses desseins odieux. Elle poursuit follement l'anéantissement des droits de Dieu en ce monde, le renversement de l'Église et de toutes les bases de l'ordre social chrétien, l'exaltation de la prétendue perfection native de l'homme et de son indépendance vis-à-vis de Dieu, la destruction de toute autorité, le règne de la matière, du désordre et de l'impiété, la négation même de Dieu, ni Dieu ni maître, voilà bien, mes chères sœurs, le résumé suprême des doctrines de cette école infernale. Je continue. Et voulez-vous connaître la cause de ces faits étranges et navrants? La Sainte Église vous répondra par la voix de Pie IX, qui était garde d'honneur. Celui qui aura bien compris le caractère, les tendances, le but des sectes secrètes, maçonniques ou autres, la nature ou le développement de cette lutte universelle déclarée à l'Église, ne pourra révoquer en doute que la calamité pressante ne doivent être attribués principalement, comme à sa cause, aux ruses et aux machinations de ces mêmes sectes. C'est d'elles que se compose la synagogue de Satan. La cause et l'agent de ce mal immense, ce sont donc surtout les sociétés secrètes, dont la diffusion est devenue prodigieuse et qui paraissent toutes se rattacher d'une façon ou d'une autre à la franc-maçonnerie. Et ce mal lui-même, c'est ce qu'on est convenu d'appeler, avec des interprétations si diverses, la révolution sociale et religieuse. La petite mère, elle y allait, hein ? Il fallait oser à l'époque, hein ? Et aujourd'hui encore, hein, il faut faire attention quand on nomme la franc-maçonnerie, hein ? Et remarquez bien ici, mes sœurs, qu'il ne s'agit pas de politique. La politique n'est qu'un masque, ça c'est sûr, pour les sectes. Toutes les formes de gouvernement leur vont, si elles peuvent les guider, toutes, hein, je répète, toutes, alors vous allez dire à quoi ça sert de voter, ben oui, c'est bien là le problème, toutes les formes de gouvernement leur vont, c'est une façade, on en est arrivé là, si elles peuvent les guider et les corrompre et aller par elles à leur but infernal. Rêve insensé et impie, elles ont même cru, assure-t-on, oubliant l'intervention divine et les promesses faites par notre Seigneur Jésus-Christ à son Église, qu'elle pourrait arriver un jour à mettre la main sur la papauté et à asseoir un des leurs sur la chair de pierre pour rendre la révolution vraiment maîtresse du monde et remplacer le règne de Jésus-Christ par le règne de Satan. Ces infâmes desseins sont constamment déjoués par l'assistance surnaturelle que Dieu donne à son Église. Voilà l'acte de foi qu'il nous faut poser aujourd'hui. Dieu permet. Gouverner les âmes pour le triomphe du mal, tel est le but des sectes secrètes. L'Église seule a le droit et le pouvoir de les gouverner pour les mener à Dieu. Elle accomplit ici-bas le plan de Dieu. La secte s'efforce d'accomplir le plan de Satan et de l'homme, ligué et révolté contre Dieu. Ce plan infernal, qui est en réalité la doctrine de la franc-maçonnerie mise en action, met les prétendus droits de l'homme à la place des droits et de la loi de Dieu. Et par un renversement radical de l'ordre, pose l'homme comme sa fin à lui-même. C'est la déification impie et satanique de l'humanité, où l'homme mis sacrilègement à la place de Dieu. L'idée religieuse elle-même doit disparaître. Tout devient humain, eh oui, c'est-à-dire indépendant de la loi divine et de toute fin surnaturelle. L'organisation, le pouvoir, les moyens et le but. Quand je dis l'idée religieuse, même l'obéissance à la supérieure, dans les ordres religieux, on remet en cause l'obéissance à Jésus. Parce que notre obéissance promise dans nos vœux s'appuie sur l'obéissance de Jésus-Christ vis-à-vis de son Père. Aujourd'hui, on remet même en cause l'obéissance du religieux vis-à-vis de son supérieur. On nous parle de consensus. Voilà. On est d'accord, tu peux obéir. Il n'y a plus cette obéissance filiale du fils vis-à-vis du père sur laquelle la religieuse s'inscrit pour obéir à sa supérieure. Du coup, c'est, et c'est ce qu'elle dit la mère, l'idée religieuse elle-même doit disparaître. Si on enlève ça d'un ordre religieux, on est des vieilles filles les unes à côté des autres. C'est tout. Ça va loin, hein ?
Ouais.
Ouais. Oui, oui, allez-y.
Mais est-ce que c'est pas justement pour pallier à une autorité injuste qui a pu avoir à un moment donné, y compris, partout dans le monde, y compris, je suppose, dans les ordres religieux.
Un côté sectaire, vous voulez dire ?
Pas un côté sectaire, mais.
Parce qu'on a beaucoup, il y a beaucoup d'ordres. Hein.
Un côté autorité, mais malversé ou abusé.
Oui, alors. Entièrement d'accord, hein. Peut-être qu'il y a eu des abus, il y en a toujours eu, hein. Mais si on prend la vie des saints, même ces abus étaient permis par Jésus, et les abus ont servi à en faire des saints. Moi j'ai plein de sœurs derrière moi dans les annales, hein, qui ont des fois subi de la part, même si on reprend, tiens j'ai l'idée là, Bernadette, Sainte Bernadette, hein, sa maîtresse, dit après, avec recul, disait « je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais poussée à l'humilier ». Et Bernadette, elle est sainte Bernadette, mais pas parce qu'elle a vu la Sainte Vierge. Hein. L'apparition de la Vierge à Sainte Bernadette était une exigence de sainteté. La Sainte Vierge ne lui a pas apparu parce qu'elle était sainte. Il a fallu le devenir. Elle a été choisie, ça relève d'un choix de Dieu, mais avec aucun mérite de sa part. Par contre, après, dans sa vie religieuse, il a fallu qu'elle soit sainte, en somme, par exigence, par rapport aux grâces qu'elle avait reçues, parce que tout s'arrêtait pas à l'apparition de la Vierge. Et sa maîtresse disait, j'étais poussée intérieurement à l'humilier. Donc, elle a subi, aujourd'hui où on est dans l'égalité, on m'a fait ça, on n'avait pas le droit de me le faire, etc. Elle a subi, en somme, on va dire, des réprimandes, qu'elle aurait peut-être pas dû en recevoir. Hein. Et si on sort du plan de Dieu, c'est-à-dire si on sort de la volonté de Dieu, ben c'est sûr que la Bernadette avait peut-être le droit de dire eh « ben on m'a pas traité correctement », ça c'est sûr. Mais ça fait pas les saints, si vous voulez. Alors, parce que le Seigneur se sert de tout. Maintenant, il s'agit pas non plus, moi je vous dirais, quand je vois les supérieurs qui m'ont précédé, comment on pouvait conduire une communauté et comment aujourd'hui on la conduit, comme on n'est pas du tout, on se place pas du tout à la même hauteur que nos sœurs qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui ont connu, nous on n'a pas connu la guerre, donc toutes ces restrictions, le sens de la générosité et du sacrifice, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais on ne leur arrive pas à la cheville. On n'a pas le même sens de la générosité. On n'est pas cette génération qui a su se serrer, une expression familière, la ceinture, pour que les plus jeunes vivent. Hein. On ne sait pas ce que c'est que de ne pas manger à sa faim. Nous, je peux dire, on fait très attention à cause de la grandeur des bâtiments, parce que la restauration et puis le chauffage, c'est hors de prix. Puis, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Tout le monde est au courant que toutes les factures augmentent. Et la vie, enfin, il en faut beaucoup plus encore d'argent pour vivre. Mais ceci dit, On n'est pas cette génération qui a été éduquée dans l'esprit de sacrifice. Donc aujourd'hui, quand on nous demande, même à une religieuse, de se mortifier, et même, je vous dis, dans le monde religieux, le mot sacrifice, pour beaucoup, c'est un gros mot, eh bien, je suis désolée, on est déconnecté de cette sainteté à laquelle on est appelé. Hein. Donc, moi, je fais qu'un constat hein, du fait que l'obéissance religieuse n'est plus celle qui était demandée par celles qui nous ont précédées, et puis celle que Jésus a. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai fait mes vœux, mon obéissance s'appuie sur celle du Christ, hein, parce qu'il y a des jours, élue, je me trouvais un peu jeune, moi, pour être élue supérieure. c'est sur l'obéissance du Christ que je me suis appuyée pour dire oui. Bon, déjà, je n'avais pas le droit de dire non, mais j'ai pour dire oui tous les jours, quoi. Hein. Alors, c'est sûr que c'est... Il y a eu sûrement des abus par le passé. Hein. Mais est-ce que vous croyez aujourd'hui où on est dans un laisser-faire, où on est dans un monde religieux où on parle plus de sacrifices, mais épanouissez-vous. C'est ça qu'on entend, les sessions, c'est épanouissement personnel, votre bonheur personnel. Moi, je ne suis pas contre, mais pour l'instant, quand je fais mes petits sacrifices, alors, je vous dis, hein, je mange tous les jours à ma faim, quand je fais mes petits sacrifices, eh bien, j'ai plus de joie à la fin de la journée que quand je me suis écoutée et que j'ai suivi la pente douce de mon moi égoïste. Et je le maintiens, ça ne fait pas les saints et c'est pas fécond. Mais regardez le monde dans lequel on vit. Hein. On a eu peut-être, il y a eu des tendances sectaires, mais même s'il y a eu des tendances sectaires, quand je regarde les années où il y a eu la débauche, c'est-à-dire cette révolution sexuelle, hein, qui a fait tomber tous ces prêtres et tous ces religieux dans des péchés abominables, je remonte, quand je regarde, je suis désolée, c'est pas le fonctionnement des monastères rigides, on va dire austères pour nous, hein, à l'époque ça l'était pas, elles vivaient déjà dans le monde avec cette austérité-là. Quand elles arrivaient dans la vie religieuse, elles avaient déjà fait leur noviciat. Nous aujourd'hui, quand on arrive au noviciat, il faut déjà baisser le truc parce que on a le téléphone, l'internet de façon permanente, on a tout ce qu'on veut, donc on sait pas ce que c'est que se priver. Mais c'est pas ça qui a fait décliner le c'est pas cet esprit austère, c'est ces années 60 hein, où il y a eu cette révolution sexuelle où on a dit allez-y, faites tout ce que vous voulez. Oui, voilà, le désir, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc c'est alors.
On aura toujours des bonnes raisons de jouir. Toujours. Ouais. Ouais. C'est là que la faute, d'ailleurs la première faute.
Exactement. Moi je vous dirais, quand on me demande d'obéir, pourquoi je regimble ? Déjà parce que je ne suis pas assez pleine de Jésus, mais parce que ça vient buter sur mon orgueil. Mais il n'y a pas de sainteté possible sans mort de l'orgueil. Et il y a une belle parole d'une mère qui fait un commentaire du directoire pour nous, qui dit, je trouve ça génial, les monastères doivent être des cimetières. Ça veut dire des gens qui sont morts à leur moi égoïste. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Et aujourd'hui, on vous dit, vous voulez votre bonheur, allez-y dans l'orgueil. Je suis désolée, ça donnera jamais la paix intérieure. Et en somme, Dieu va utiliser ces injustices que nous, on appelle injustices, hein, je le maintiens, ou épreuves, que nous, on appelle épreuves. Pour lui, c'en est pas. C'est un moyen qu'il utilise pour taper sur votre moi orgueilleux, pour enlever une petite peau du moi qui se cache, quoi. Hein. Et il n'y a pas, en somme, quand on voit Sainte Marguerite Marie, c'est comme ça qu'il l'a dépouillée. Et la mère, c'est pareil, hein, elle va être dépouillée. Hein, après, c'est vertigineux. Quand elle va recevoir sa vocation et qu'elle va tomber, le Seigneur va lui faire rencontrer un prêtre qui va voir... tout petit, il verra le martyr de son assistante, parce qu'elle va, elle va mourir, parce qu'elle va se faire tuer par un anarchiste. Mystérieusement, elle s'était offerte pour contre la franc-maçonnerie. Eh bien, son directeur spirituel va les voir en vision prophétique. Il va se voir porter à l'autel deux vierges, donc la mère Marie de Jésus et son assistante. Mais il va lui donner un programme de mort à elle-même. Aujourd'hui, mais on dirait, oh, mais il est austère! Voilà. Et ben il n'y a pas d'autre chemin. Et là, faut pas qu'on se... Je pense qu'il ne faut pas qu'on se mente à soi-même, quoi. On ne peut pas être heureux sur le monde si on ne se livre pas une guerre à soi. Et laissant en lui cette générosité, ben, d'avoir la main lourde sur eux, quoi. D'avoir cette exigence sur eux et de ne pas se donner les, ben, voilà, ces petites douceurs là, qu'on se permet. Mais moi, là, je ne juge personne, hein, là-dedans. Je dis simplement les faits, quoi. Donc, là. Monsieur de Prévost.
Oui, non, simplement ce que je voulais dire. Deux choses. La première, l'Église a été victime des années 68.
Oui, exactement.
Ça, c'est
ouais.
La,
exactement,
la,
tout
la
à
première
fait.
Vague de fond. Ouais. Et la deuxième vague de fond, c'est que l'Église est restée en quelque sorte impassible devant ces événements. C'est-à-dire que dans certains diocèses, vous avez certains prêtres, voire certains évêques, qui sont à la fois des ecclésiastiques et des francs-maçons.
Ben bah, oui.
Et parfois, on leur attendait gentiment au sein du nonce apostolique à Paris, hein, de choisir qu'est-ce que vous choisissez, votre loge maçonnique ou l'église catholique, ouais. Mais d'une manière très soft et très gentille. Mais
oui,
on
oui.
Se remarque qu'on ne peut pas être soft et très gentil. Oui.
Non.
Faut savoir trancher.
Oui, voilà. Ouais. Et c'est ce que me dit la mère. Hein.
Et l'église d'aujourd'hui est victime d'elle-même. Hein? En ce sens qu'elle n'a jamais su, entre guillemets, trancher. Bon, moi, je vais vous dire, ma mère, vous le savez très bien, j'ai travaillé dans un évêché pendant près de 18 mois à l'étranger. Quand je voyais des prêtres ouvriers, moi, je ne comprenais pas trop pourquoi des prêtres étaient ouvriers. Il y a des ouvriers, il y en a partout, il y a même du chômage. Alors,
et on donc, a fait, oui, ça c'est
donc, des prêtres ouvriers, alors on disait, mais si... C'est pour mieux se mélanger avec la communauté humaine, ouvrière et autres. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'il n'y en a quasiment plus.
Hein. Non, c'est intéressant.
Et quand certains prêtres que vous connaissez et que je connais, que nous connaissons de manière...
Très bien,
ils ont, à cette époque de 68, ils n'ont jamais enlevé leur col romain. À l'époque où leurs confrères, leurs frères de religion leur disaient, ben, enlève donc, mets-toi donc en t-shirt ou en... Ou en chemisette, et puis même arbore.
Après, il faut bien prendre conscience de toutes les pressions qu'il y a, et aujourd'hui encore.
Arbore une toute petite croix, et puis ça passera comme du feu. Et certains ecclésiastiques que je peux connaître m'ont dit, non, moi je ne sais pas, je suis religieux, je suis reconnu en tant que tel, aimé ou détesté, mais bon, je suis toujours le même.
Ouais.
Et aujourd'hui, ben, aujourd'hui, l'Église se dit... Ben, il faudrait peut-être, pour qu'on soit reconnu, arborer le col romain. C'est pour ça qu'on voit maintenant deux nouveaux prêtres, deux nouvelles fraternités. Les nouvelles fraternités qui, entre guillemets, recrutent ou embauchent deux nouveaux prêtres.
Oui, je sais bien.
Eh bien, ce sont des communautés un peu spécifiques. Hein,
oui, oui,
plus
que
la moyenne.
Oui, oui. Mais, oui, tout à fait. Mais là aussi, hein, prions pour nos prêtres. Ce n'est pas la soutane qui fait le prêtre. Hein. C'est, c'est l'union à Jésus qui fait le prêtre. Hein. Et parce que là aussi, hein, le malin est malin. Hein. Donc, il nous faut simplement... on va voir, enfin, on continue.
Mais certains prêtres m'ont dit qu'on n'a pas été et on n'est pas loin de la crucifixion. Donc, vous voyez...
Ah oui, c'est clair, c'est clair.
D'une certaine manière. Hein.
Oui, oui, je sais très bien hein, qu'il y en a qui sont très attaqués, etc. Ça, c'est... Mais ceci dit, ce que je veux dire, c'est que... c'est clair que le verre est rentré dans l'église, ça on le sait bien, c'est pas de moi, hein, c'est de Benoît XVI. Hein. Et donc ça, on va pas se faire, on sait très bien aussi que la franc-maçonnerie y danse bien. Mais ceci dit, il y a des moyens aujourd'hui, parce que quand on regarde notre pauvre monde, on dit bon, bah, il n'y a plus qu'à aller, il n'y a plus rien à faire. Bah non, je suis désolée, il y a quelque chose à faire quand on est garde d'honneur. Il y a cette lutte spirituelle à mener. Et c'est vrai que comme elle est la première zélatrice de la garde d'honneur, la Mère Marie de Jésus, il me semblait bon de vous lire pour vous rendre compte que ben, notre situation qui est quand même catastrophique, même si ça s'accélère, on voit bien, hein, tout y passe, mais c'était aussi encore à l'époque de la Mère. Et donc, cette lutte, elle est toujours à mener et jamais à se décourager, quoi. Et parce qu'elle, leur vocation était d'offrir pour les prêtres. Hein. Et aujourd'hui, où le sacerdoce est plutôt mis à mal, et c'est plus que d'actualité, hein. Donc voilà.
Je ne sais pas si le danger, je me pose la question, c'est d'être hypnotisé par le mal. Et l'œil n'a jamais fini de voir, l'oreille n'a jamais fini d'entendre.
Ouais.
Et on est hypnotisé par le mal, ce qui fait qu'on va prendre les mêmes phrases, les mêmes moyens, et on va plus savoir qu'on est des yeux qu'avant des moyens de prière.
Ouais.
On va voir la même chose politiquement.
Non, c'est pas le bon plan. La mère parle de lutte spirituelle, la lutte de la prière, la lutte de l'immolation. Alors, c'est pour ça que je veux le lire, parce que l'immolation, elle l'entend, comme je vous disais tout à l'heure pour la garde d'honneur, lever son petit pied, offrir ses ratés. L'immolation, la mère, elle n'aura, comme elle était passée par la visitation, et que la visitation, c'est absolument, c'est le saint fondateur a voulu ouvrir la vie religieuse pour les faibles santé et voire les infirmes, eh bien, notre immolation, elle, c'est l'amour propre, c'est la volonté propre, c'est l'orgueil. Donc, c'est l'essence. Donc, une sœur, par amour, gardera ses yeux baissés alors que, justement, elle entend du bruit et qu'elle aimerait bien voir qu'est-ce qui arrive au fond du cloître. Eh bien, offert, ça sauve. Et ça peut, elle dit bien, l'humilité pour renverser l'orgueil de Satan. Et aujourd'hui, on est plus justement... moi, je suis pas... je crois que j'ai jamais été pour les manifestations. Je suis contre les manifestations. Pour moi, c'est apporter de l'eau à leur moulin et c'est un appel à la violence à jamais porter ses fruits. Et par contre, un sourire à son voisin alors qu'il ne sourit jamais le matin quand je le croise, eh bien, moi, je veux croire que ça change justement cette sphère infernale de la violence. Et c'est ça qu'elle propose, la mère, quoi. Et pas de se lancer à la figure, parce qu'elle parle bien de conversion des francs-maçons. Ce sont nos frères, hein. Et il est mort, le Seigneur, sur la croix, pour eux aussi, quoi. Mais après, et je pense aujourd'hui, c'est un petit peu le problème, c'est que il nous faut quand même mettre un nom sur le mal. Et parce qu'aujourd'hui, c'est le règne de Satan, c'est la grande confusion. C'est-à-dire que on sait le rouge est devenu le noir est devenu le rouge. Donc, si pour toi c'est bon, eh ben prends, c'est bien. Ben non, je suis désolée, voler chez le voisin, ça n'a jamais été un bien. Donc, c'est pas bien de le faire, quoi. Donc, il faut dénoncer le mal. Par contre, c'est sûr qu'il faut pas. Moi, tous les jours, je suis pas à me dire non. En général, je passe mon temps à dire merci Seigneur, ce qui me fait que des clins d'œil. Donc, il est plutôt. Je préfère le voir dans sa louange, enfin la manifestation de son amour au quotidien, quoi. Voilà, une dernière. En tout cas, ça suscite des réactions, hein. Allez-y.
Juste pour rebondir sur le fait que vous disiez que la grande assemblée danse sur l'église.
Oui.
Et pour répondre à monsieur, moi je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des ecclésiaux, des évêques qui sont installés quelque part dans les lieux. Justement.
Pour,
moi je pense que c'est plutôt une lueur d'espoir, justement.
Oui. Parce que. Ouais. Sauf que le seul souci, c'est qu'on ne rentre pas dans les loges sans devenir un des leurs.
Alors, je ne sais pas ce qui s'y passe.
Ouais,
espérer que leur sacerdoce et la promesse qu'ils ont faite à Dieu les tiendra jusqu'au bout.
Ouais. Oui, il faut espérer.
L'Église a toujours envoyé des ministres ordonnés partout dans le monde, dans tous les milieux, et je pense que c'est bon qu'ils y soient.
Oui, bah c'est respectable sûrement. Par contre, j'insiste quand même, moi qui ai un petit peu, parce que c'est un domaine qui m'a intéressée, quand on rentre dans une loge, on en fait partie. C'est-à-dire qu'on n'est pas un espion, parce que vous n'y rentrez pas. Hein. Et il y a plusieurs niveaux de loge. Il y a la loge où on fait la fête, hein, c'est tout. Et puis il y a vraiment la loge où là on décide des plans d'un niveau politique.
Hein. On parle de loge et aussi on parle de super loge.
Oui, là,
c'est. On passe au niveau des états et.
Par contre, on va peut-être pas trop s'égarer. Ça suscite des réactions, tant mieux, hein, mais que ça nous suscite en tout cas dans la prière une grande générosité. Alors. Alors du coup, la secte secrète attaque, poursuit et veut anéantir à la fois la religion, la morale, l'autorité, la famille, la propriété, l'éducation chrétienne, tout gouvernement honnête, la vraie liberté et la papauté qu'elle regarde comme le centre et la garantie de toutes ces grandes choses qui constituent la société et sur lesquelles elle repose comme sur sa base. Elle veut tout détruire pour en arriver à ce qu'elle appelle l'état de nature, c'est-à-dire véritablement l'anarchie. À la sauvagerie, à la barbarie, plus de culte que de l'adoration de soi-même, plus de devoir qu'un égoïsme effréné et la satisfaction par tous les moyens des instincts les plus monstrueux. En face de l'erreur, ainsi triomphante et presque maîtresse du monde, ayant du moins pour elle la force matérielle, le pouvoir et cette apparente légalité par laquelle on cherche de nos jours à légitimer tant de mal, faut-il donc désespérer du présent et de l'avenir ? Jamais, mes sœurs, jamais, Jésus-Christ a vaincu Satan et le monde. À Jésus-Christ, toute puissance appartient, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, même dans les enfers. Les nations lui ont été données en héritage. Pendant qu'il laisse la bête infernale se débattre à ses pieds dans de passagers et trompeurs succès, vainqueur, il triomphe et les anges des cieux chantent déjà sa victoire définitive. Il y a des fois, on a l'impression qu'il gagne, c'est faux. Toute l'action de la révolution et des sectes est essentiellement satanique. Tout y est mensonge, enchaînement fatal, d'erreur, tendance aveugle vers la destruction, mais incapacité radicale de rien édifier de durable, même pour le bonheur temporel des peuples. Leur idée et leur maxime perverse portent le signe de la bête, c'est l'écho de la révolte de l'ange déchu qui cherche à entraîner à sa suite l'homme que Dieu a tant aimé. Mais qui est comme Dieu, mes sœurs ? Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église qu'il a fondée. Le triomphe final n'est point pour ceux qui portent le signe de la bête, il est pour nous qui portons le nom de Jésus-Christ sur nos fronts et son amour dans nos cœurs. La providence marche par des voies incompréhensibles à l'esprit humain. Ça, c'est important de le garder. Elles n'en sont pas que plus adorables et c'est là-haut que nous aurons la joie, la surprise et l'admiration de ce grand plan divin dont chacun de nous ici-bas ne perçoit que quelques lignes sans voir l'ensemble. Il a fallu que Jésus souffrit et qu'il entra ainsi dans sa gloire. Il faut que l'Église et les âmes passent par le même chemin. L'Église ne vit pas seulement un jour quand les martyrs tombaient, comme tombent l'hiver les flocons de neige. N'eût-il pas pu croire que tout était perdu ? Non, leur sang préparait les triomphes futurs et assurait de l'Église. Nous travaillons pour ceux qui viendront après nous et ils recueilleront le fruit de nos larmes et peut-être de notre sang. Elle a pu le dire, hein. L'Église va ainsi de lutte en lutte, de victoire en victoire, l'une succédant à l'autre, jusqu'à l'éternité, qui sera le triomphe définitif. S'arrêter au moment présent pour juger de l'ensemble serait se tromper. Nous avons les promesses et les certitudes de la vie éternelle. Et ce qui console de tout, Dieu triomphe d'autant plus magnifiquement que la victoire nous a plus coûté. Il est plus commode de vivre dans une époque de paix relative. Il est plus grand, plus noble et plus méritoire de vivre dans des temps troublés. Nous défrichons, nous labourons, nous remons péniblement la terre. D'autres recueilleront la moisson, mais elle ira à coup sûr et féconde et splendide dans les greniers du Père Céleste. Et ainsi de siècle en siècle, les efforts de Satan devant toujours plus furieux et plus désespérés, et la sainteté des justes toujours plus grande jusqu'à ce que le temps ait pris fin et que Satan soit à jamais refoulé dans l'abîme. Voilà, je suis désolée à cause de l'heure, je vais être obligée de vous laisser, mais on poursuivra ce que je voudrais en arriver au moment où elle donne justement comment on peut faire le contrepoids, hein, et ça c'est vraiment ça qui nous est demandé dans la garde d'honneur, dans notre heure de présence, tous ces petits actes d'humilité dans lesquels on est invité à faire ces sourires, ces ratés qu'on doit offrir. Eh bien, c'est pas... Parce qu'on est toujours travaillé par nos manques de foi, hein, le doute, on se dit ça sert à rien. Eh bien non, c'est de cette manière que l'immolation peut se vivre et qu'on peut renverser ce règne de Satan. Hein, en sachant, comme le dit la mère, la victoire, il l'a eue. Nous, on s'inscrit dans cette victoire. Et comme je vous disais au début, tous vos actes revêtent une valeur de rédemption parce qu'ils sont faits en communion avec lui. Donc, ces petits actes d'humilité renversent, par exemple, ces projets de loi sur l'euthanasie, ces manifestations qui n'en finissent plus, qui mettent un désordre dans la société, et ce mécontentement qui met une ambiance d'amertume. Tout le monde y va de sa violence, hein, on manifeste une agressivité constante. Eh bien, croire que quand on dit un bonjour chaleureux, on renverse ça. Hein. Et ça, c'est important de pas l'oublier, parce qu'on est malheureusement immergé dans un monde où c'est pousse-toi que je m'y mette. Hein. Et donc, non. Donc, le fait d'avoir été choisi, parce que ça ne vient pas de vous, d'être garde d'honneur, vous invite à poser ces actes révolutionnaire, hein, parce que je vous dis, la révolution spirituelle, on y croit si peu. Hein. Voilà, alors on prie pour tous nos malades, hein, pour tous ceux qui nous sont confiés dans la prière, qui souffrent dans leur corps et leurs âmes. Je vous mets à votre disposition dans quelques tracts, vous en trouverez plus à la chapelle pour les diffuser autour de vous, donc le week-end de du mois de mars. Et puis, et d'autres tracts pour faire connaître la garde d'honneur, donc cette grâce, hein, de pouvoir offrir une heure tous les jours pour le consoler. Parce qu'à travers ce qu'on lisait de la mère, mais vous êtes encore mieux à même, vous, dans le monde, de vous rendre compte des abus, du refus de Dieu. Et c'est un moyen simple, mais j'irais très actuel, parce que alors qu'on est tous très chargés, eh bien d'offrir ce qu'on fait pour le consoler. Ce n'est pas un rajout, mais c'est l'art de vivre autrement avec le cœur de Jésus. Donc on termine avec les invocations habituelles. Voilà, c'est ça, exactement, en faisant ce qu'on fait, en offrant ce qu'on fait, pardon, uniquement, avec le plus d'amour que vous pourrez. Hein. Donc c'est pas un amour senti, hein, c'est un amour de volonté. Je veux, Seigneur, faire ma vaisselle avec amour, même si, bon, bah, j'ai pas trop envie de faire ma vaisselle, quoi. Mais voilà, c'est dans ce que je veux aimer, j'aime, hein. C'est pas je sens que j'aime, j'ai le cœur tout chaud. Si ça vous arrive, tant mieux. Mais pour les gens qui n'ont jamais le cœur tout chaud, voire plutôt un cœur qui est froid, la prière où vraiment on se force à dire son chapelet, c'est pas pour autant qu'il n'est pas entendu. Au contraire, il est fécond. C'est pas le sentiment qui donne la valeur de nos prières, mais la volonté, l'amour avec lequel on fait les choses. D'accord ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va se confier à Marie. Parce qu'on ne veut pas qu'on oublie que c'est elle qui écrase la tête de Satan. Et dit Saint-Louis-Marie en Montfort, Satan ne peut pas la supporter parce que c'est la plus humble des créatures. Dernièrement, on me disait... je crois qu'il m'aime, c'est un prêtre qui me disait ça, je crois même que Satan déteste plus la Sainte Vierge que Dieu, parce que c'est une créature et c'est la plus humble, et Satan ne veut pas supporter l'humilité, quoi. Donc quand on voit dans notre monde où l'orgueil, et je dirais le péché dominant, eh bien tout est fait, hein, par orgueil, eh bien on a besoin de petits actes d'humilité. Et mystérieusement, le cœur de Jésus nous invite quand même à se mettre à son école, et doux et humble de cœur. Pas rien. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Jean,
priez pour nous.
Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal,
priez pour nous.
Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie,
priez pour nous.
Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini,
priez pour nous.
Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes,
priez pour nous.
Sœur Marie du Sacré-Cœur,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, bonne fin d'après-midi. Et puis, donc on se revoit normalement en mars pour le week-end. Voilà.